Ce message vous est proposé par Church Team Ministries International Île-Maurice. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonsoir et bienvenue. Bienvenue parmi nous. Nous sommes heureux d'être là et de pouvoir partager l'Évangile. Croyons que Dieu est fidèle et qu'il entend nos cris. Je crois que ce soir, nous savons tous le sujet lequel nous allons partager. Et pour cela, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir vos Bibles avec moi dans le prophète Jérémie. Au chapitre 6, nous allons parler sur le cœur de l'homme, le cœur du chrétien. C'est important, je crois, pour nous d'entendre la voix du Seigneur, d'entendre sa voix. Il y a tant de voix qui se font entendre aujourd'hui au sein de l'Église. Beaucoup de voix. Je crois que c'est important pour nous de nous assurer que nous entendons la voix de l'Esprit. Très important aujourd'hui, dans les derniers jours, parce que tous ceux qui ont parlé des derniers temps, tous ceux qui ont écrit les épîtres, et même Jésus, en parlant des derniers temps, nous avise et nous met en garde que nous allons entendre beaucoup de voix. Et c'est important pour nous d'entendre la voix de l'Esprit et non pas la voix des hommes. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Donc je vous rappelle qu'on parle ce soir et demain sur ce sujet, le cœur du chrétien. Donc il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. » Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Et c'est fou qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église, des chrétiens qui ne veulent pas entendre la voix de l'Esprit et qui se contentent de ce qu'ils ont, qu'ils se contentent de ce qu'ils ont entendu, sans même réaliser que souvent, parfois, le Seigneur parle. Il veut faire entendre le son de la trompette, il veut emmener un avertissement, mais beaucoup se contentent de ce qu'ils sont et ne sont pas intéressés à entendre ce que le Seigneur veut emmener, veut dire au sein de l'Église. Et là, dans ce temps, il est clair que le peuple d'Israël s'était éloigné. Et le prophète Jérémie avait été chargé de la part de Dieu de venir avertir le peuple d'Israël d'un châtiment qui allait lui tomber dessus. Mais vous savez, avant tout châtiment que Dieu veut emmener, il prévient. Il prévient, il met en garde, il a suffisamment de grâce et d'amour pour avertir son peuple de ne pas continuer à s'engager sur un certain chemin, une certaine route. Et le Seigneur fait sonner une trompette et fait emmener un avertissement. Et là, le peuple d'Israël est arrivé au point où quelque part, ils se demandaient en eux-mêmes, mais sur quel chemin avons-nous marché? Où est le vrai chemin? Quelque part, ils étaient découragés. Et là, nous voyons qu'il est écrit, un conseil leur est donné. Placez-vous sur les chemins et regardez. Demandez quels sont les anciens chemins afin que vous puissiez suivre. Mais la Bible nous dit qu'ils ne voulaient pas écouter. Beaucoup n'écouteront pas. Certains écouteront, mais beaucoup n'écouteront pas parce qu'ils seront satisfaits du chemin sur lequel ils marchent. Quelque part, leur cœur ne serait pas ouvert à un changement, à un défi, à la voix de l'Éternel qui leur demande de s'ajuster, de revenir sur les anciens chantiers. Ils s'étaient écartés, ils s'étaient éloignés. Quand la trompette sonne, il faut écouter. Mais encore une fois, nous voyons que le peuple d'Israël avait le cœur endurci et n'était pas prêt à écouter le son de la trompette. Et moi, je crois que dans les jours que nous sommes, que nous vivons aujourd'hui, il y a un son, il y a le son de la trompette qui résonne. Il y a des envoyés de Dieu. Il y a un chemin que le Seigneur veut que nous marchions. Il y a une trompette qui sonne. Et c'est à nous d'ouvrir nos cœurs et de ressentir le cœur du Seigneur là où il veut nous emmener. Il ne faudrait pas être braqué, être fermé, avoir un cœur fermé aux choses nouvelles que le Seigneur veut emmener. Et le Seigneur donne des avertissements à son peuple. Et il nous faut être sensibles et ouvrir nos cœurs et écouter. Il y aura des envoyés de Dieu. Nous entendrons le son de la trompette. Les chrétiens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu entendront le son de la trompette. Mais la question est, combien sont ceux qui sont disposés à entendre et ne pas dire comme le peuple d'Israël ici, nous n'y serons pas attentifs et nous ne voulons pas entendre. Nous ne voulons pas entendre. À l'heure où Jérémie, le prophète, parle, la Bible nous dit que ceux qui servaient le Seigneur, beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, le servaient pour leur propre gain. Si vous lisez les quelques versets un peu avant, vers le verset 10 aux environs, il dit « Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, trompent le peuple de Dieu. Mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas écouter, ils veulent continuer sur leur propre voie. » Et là, je voudrais, après avoir juste posé ce petit fondement, pour nous faire comprendre que le Seigneur veut parler et parler clairement. Et s'il veut nous arrêter, et s'il veut nous rattraper, et s'il veut nous reprendre, il vaut mieux écouter. Prendre cas et prendre conscience de ce que le Seigneur veut dire et veut faire dans ces derniers jours. Pourquoi parler du cœur du chrétien? Pour quelle raison? Moi, je crois que c'est important pour nous de comprendre que la nouvelle alliance est une alliance de cœur, pas comme l'ancienne alliance. Gérée par la loi, gérée par les principes, mais la nouvelle alliance est une alliance de cœur. En d'autres mots, c'est notre cœur qui compte le plus devant le Seigneur. Ce n'est pas tellement nos actions, c'est surtout notre cœur. Dans le livre des Hébreux, nous allons parcourir un petit peu quelques versets afin de nous faire comprendre bien clairement. Nous allons aller lentement, mais nous allons arriver jusqu'au bout. Dans le chapitre 8, au verset 10, il est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc, sous cette nouvelle alliance, le Seigneur parle au cœur, voit les cœurs, et est intéressé par nos cœurs. Beaucoup plus que par nos actions. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, nous voyons comment il est écrit par l'apôtre Paul. Il dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Donc désormais, sous la nouvelle alliance, Dieu parle au cœur de l'homme. Au cœur. Pas à l'intelligence de l'homme, non. Pas à la raison de l'homme, mais au cœur de l'homme. L'Esprit de Dieu écrit la révélation de l'Évangile sur les tables de chair, sur nos cœurs, dans nos cœurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, qu'est-ce que nous voyons? Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dans nos cœurs. C'est là où tout se passe. La vie de chrétien émane de son cœur. Si son cœur est tordu, rien ne va. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire le tour du monde. Il peut essayer de servir le Seigneur. Mais la question est-ce qu'il a l'approbation de Dieu? Est-ce que le sceau de Dieu est sur sa vie? Quand son cœur n'est pas en règle, quand son cœur n'est pas droit, quand son cœur n'est pas pur, c'est important pour nous de comprendre cela. Il faut que l'Église arrive à saisir aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer à servir le Seigneur sans nous assurer que nous avons tous un cœur clair, droit et pur. Si nous lisons comment Jésus s'est adressé à ses disciples dans son évangile au chapitre 5 du livre de l'évangile de Matthieu, nous voyons clairement que le Seigneur s'attend et prévoyait un autre style de vie. Il dit, il vous a été dit que vous pouvez agir de cette manière, mais maintenant, moi, je vous dis. En d'autres mots, sous la nouvelle alliance, c'était que les actions de l'extérieur, que les principes, que les techniques, que les lois. On est d'accord avec ça? Les sacrifices, les ordonnances. Il vous a été dit, faites ça comme ça. Mais Jésus a dit maintenant sous la nouvelle alliance, moi je vous dis. Et dans tout ce que le Seigneur a prescrit sous la nouvelle alliance, il pointe le doigt sur l'attitude de nos cœurs, sur notre cœur. Avant, il fallait commettre l'acte. Maintenant, nous n'avons pas besoin de commettre l'acte. Il suffit que nos cœurs soient tordus, que nous sommes déjà contre Dieu. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On suit, il faut suivre, arriver jusqu'au bout pour bien comprendre. Peut-être que vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Et nous allons voir quelques versets rapidement. Verset 8, chapitre 5, verset 8. Première chose que Jésus dit dans le sermon de la montagne, une des premières choses, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » D'accord ?« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Donc, en d'autres mots, on n'a même pas besoin de commettre l'acte. Il suffit que notre cœur veuille. Oui ou non ? C'est clair ou non ? Il n'y a pas besoin de commettre l'action. Sous l'ancienne alliance, c'était une histoire d'action. Sous la nouvelle alliance, c'est une histoire de cœur. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui devient maintenant important pour le Seigneur. Parce que on revient au premier verset que nous avons lu dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance est une alliance de cœur. Tout va être écrit maintenant sur notre cœur, sur les tables de notre cœur. Trop longtemps, nous avons ignoré l'état de notre cœur. Trop longtemps, nous n'avons pas pris cas de nos attitudes, de notre liberté, de laisser notre cœur pourrir, se gâter, et en même temps être zélé pour prêcher l'Évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour servir le Seigneur. Trop longtemps, nous avons ignoré la chose la plus importante, qui est l'état de notre cœur, le cœur du chrétien. La Bible nous dit que le Seigneur, lui, il sonde les cœurs. Il connaît nos pensées du cœur. Matthieu chapitre 5, versets 27-28, qu'est-ce qu'il est dit ? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. On est d'accord ? L'acte d'adultère, l'action. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ? Dans son cœur. Est-ce qu'on est d'accord ou non ? Dans son cœur. Donc, sous l'ancienne alliance, c'était l'action. Sous la nouvelle, c'est dans le cœur. C'est Jésus qui a dit ça. Il vous a été dit, mais maintenant, moi, je vous dis. Et à chaque fois que Jésus a dit « Moi, je vous dis », il se réfère au cœur de l'homme. L'attitude. En d'autres mots, comment on vit? Qu'est-ce qui anime notre cœur? C'est plus les actions. Non. Quand Jésus a enseigné selon la foi, comment est-ce qu'il a parlé de la foi? La foi où? Dans notre tête? Ou est-ce qu'il a parlé de la foi dans le cœur? La foi, c'est dans notre cœur. Romains chapitre 10, verset 9, l'apôtre Paul nous dit quoi ? Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas si tu crois dans ta tête. Il y a beaucoup de gens qui croient dans le Seigneur dans leur tête. Si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Marc chapitre 11, verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit ? Si vous voulez ouvrir votre Bible, vous lisez avec moi, autrement, pas besoin. La Bible nous dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Où est la foi? Où se trouve la foi? Dans notre cœur, oui ou non? C'est là où se trouve la foi. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens que Christ habite dans nos cœurs. Cœur par la foi. Éphésiens chapitre 3, il nous dit ça. Christ habite dans nos cœurs par la foi. L'Esprit de Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est là où tout se passe. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas nos raisonnements, ce n'est pas seulement nos paroles. Nos paroles peuvent tromper, mais nos cœurs ne peuvent pas tromper. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter. Et trop longtemps, on a mis de côté, on a placé l'importance sur tellement d'autres choses dans l'Église, sans réaliser que toutes les choses que nous pouvons faire, si elles ne sont pas faites avec un cœur qui est droit et qui est pur, on n'a pas le sceau de Dieu et l'approbation de Dieu là-dessus. C'est très très simple, hein? On retourne au béaba. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas intéressée dans le béaba. Vous savez, c'est comme des gens qui sautent des classes. Tu crois trop fort, ils sautent des classes. Après première, standard 1, ils vont direct standard 3. Ouais. Ils rentrent dans la profondeur en oubliant le béaba, la simplicité même de la chrétienté. Le cœur même de la chrétienté, si on peut dire. C'est notre cœur. L'abondance du cœur que la bouche parle. Dans l'évangile de Matthieu, il parle de les pensées du cœur, les mauvaises pensées du cœur. Pas croire que ça vient dans la tête tout ça. Les mauvaises pensées du cœur que la parole de Dieu parle. Paul parle dans le livre de Corinthiens, il parle des desseins du cœur. Si on arrive à conclure quelque chose avec les quelques versets que nous avons vus, si vous voulez faire une petite étude à vous-même, allez chercher dans la parole de Dieu, vous verrez que tout a besoin de passer par le cœur. C'est la vie chrétienne. Parce que si Jésus avait à être satisfait par les actions, il aurait applaudi les pharisiens. Longue robe, première rangée, très traditionnel, très religieux. Leur mot était droit, se référait toujours à un commandement, à une loi quelconque de l'Ancien Testament. Tout était clair. Mais Jésus les a remis en ordre concernant leur cœur. Oui ou non ? Concernant l'état de leur cœur. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, chrétiens, tout chrétien, en passant par les serviteurs de Dieu, nous devons nous assurer qu'on ne peut pas continuer à servir le Seigneur. On ne peut pas. Peut pas. Continuer à servir le Seigneur si nous ne sommes pas assurés que notre cœur est droit devant le Seigneur, notre cœur est pur devant le Seigneur. Il faut s'arrêter. Arrêter comme le peuple d'Israël s'est arrêté. Et qu'il y avait certaines personnes qui passaient et qu'ils avaient à demander « Où sont les anciens chemins ? Nous sommes perdus. Où est la route ? Où est la route qui mène à la vie ? Où est l'onction ? Où est la présence de l'Esprit ? Où est la vie de l'Esprit ? Où est la présence de Christ dans ma vie ? Montrez-moi le chemin. » Certains entendront, certains voudront savoir. Et la réponse, elle est simple. Suivez-les. Il y a certains qui marchent là-dessus. Suivez-les. Et la réponse de la plupart était quoi? Non, nous ne les suivrons pas. C'est ça que c'est écrit dedans. Non, on ne va pas les suivre. Quand il y a un prix à payer, on refuse de suivre. Quand il y a une vie à donner, on refuse de suivre. Et mes frères et sœurs, c'est simple. Quand on parle de donner sa vie, quand on parle d'un prix à payer, c'est l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre vie pour changer ce cœur. par changer notre manière de voir les choses. Parce que tous les chrétiens voient pareil, mais tous les chrétiens n'ont pas la même qualité de cœur. Non, tous les chrétiens n'ont pas la même qualité de cœur. Il y a des millions qui marchent tous les jours avec des cœurs tordus. Il y a des millions qui marchent tous les jours dans la critique. Il y a des millions qui marchent tous les jours dans le jugement. Il y a des millions qui marchent tous les jours en étant dans le monde. Il y a des millions qui marchent tous les jours en jugeant les autres de la manière qu'ils veulent. Et prennent pas conscience que c'est là le point capital de leur vie. Il y a des prédicateurs qui se tiennent debout et il y a des pupitres et qui critiquent et qui jugent les autres. Mon conseil, arrête, pas arrête de juger, arrête ta course et va devant le Seigneur et laisse-le emmener la vraie repentance dans ton cœur.
C'est la vérité.
L'important, c'est l'état de notre cœur. Ce n'est pas ce que nous faisons. Mais c'est comment nous le faisons. Ça fait bien quelques années maintenant que je n'ai pas le courage de parler sur quelqu'un. Que je n'ai pas le courage de juger quelqu'un. Que je n'ai pas le courage de critiquer quelqu'un. Parce que je sais que si je le fais, je ne pourrai pas me tenir derrière un pupitre et prêcher l'évangile parce que je n'aurai pas l'approbation de Dieu et le sceau de Dieu sur ma vie. Et c'est fou comment les chrétiens et les prédicateurs, pas tous, certains, je parle de certains, il faut pas m'en vouloir. Il faut pas m'en vouloir. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits avec certains articles que j'écris. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Et certains qui ne sont pas contents par certaines choses que je dis. Mais il ne faut pas m'en vouloir. Si ce que nous disons est scripturaire, il ne faut pas m'en vouloir. Le péché dans le cœur de l'homme, l'iniquité dans le cœur de l'homme, le non-pardon, c'est quoi? Les critiques, c'est quoi? La haine dans notre cœur, c'est quoi? On peut continuer, hein? Les rancunes dans notre cœur, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi? Comment on peut servir le Seigneur comme ça? Comment on peut même oser? Comment on peut oser? Si on ose, c'est qu'on ne comprend pas. Si on ose continuer notre course, continuer à servir le Seigneur avec le péché dans notre vie, c'est que nous n'avons rien compris de la nouvelle alliance et que nous sommes en train encore de servir le Seigneur sous le même régime de l'ancienne alliance. C'est-à-dire, je fais, j'ai l'appel, je fais, je cours, je fais, je prêche, je ceci, je cela. Et on ne prend pas compte de l'état de notre cœur. Et on continue à critiquer comme si c'est une parole légère qui sort de notre bouche. On continue à emmener un jugement sur une personne, sur un prédicateur, sur quelqu'un. On a la rancune dans notre cœur envers notre femme, notre mari. On ne peut pardonner quelqu'un et on continue. Comment est-ce qu'on peut continuer? C'est qu'on n'a pas compris. David avait péché contre Dieu. Dans le psaume 51, nous lisons, après s'être repenti devant le Seigneur, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. David était appelé de Dieu, était un homme de Dieu, choisi par Dieu. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu a envoyé Nathan le prophète vers David? Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas accepter que David continue dans l'état où il est, sans réaliser son péché. Il était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu, appelé de Dieu, choisi par Dieu, loin de Dieu. Il avait besoin de comprendre qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Et Nathan le prophète est venu envoyer le Dieu pour lui montrer son état. Et quand il a vu son état, il s'est repenti. Il n'a pas dit « Non !» Comme le peuple d'Israël dans Jérémie chapitre 6. « Montrez-moi le chemin, montrez-moi les anciens sentiers. Montrez-moi comment il faut servir le Seigneur. » Et moi, je veux vous dire une chose, mes amis, c'est que dans les derniers temps, Dieu enverra des hommes. Dieu enverra des prophètes, des hommes qui parleront de sa part et qui mettront les choses, des points sur le « i ». Parce que l'Église du Seigneur ne c'est pas un club, c'est pas une association privée ni publique. Le même David dans les psaumes 70, qu'est-ce qu'il dit? Si je garde l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'exaucera pas. Correct ou non? Vous voulez lire psaume 66, allez lisez avec moi. Verset 17. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il avait bien compris, David. Hein? Après la repentance, après avoir été mis au défi par le Seigneur, arrêté par Dieu, il avait bien compris quelque part qu'il ne pouvait pas continuer à concevoir le péché dans son cœur, à marcher avec l'iniquité dans son cœur, et qu'en même temps, Dieu l'exaucerait. Impossible. Il avait bien compris. Il savait très bien que Dieu ne l'écouterait point. Ouais. Il n'aurait pas perdu son temps de prier au Seigneur parce qu'il savait que Dieu ne l'exaucerait point. Et dans le psaume 51, si vous retournez un petit peu à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, n'éloigne pas de moi ton Saint-Esprit. Alors là, c'était fini. Là, il savait que tout était perdu, là. C'était fini. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer sachant que nous vivons loin du plan de Dieu, loin de la vérité, qu'on n'est pas droit, on n'est pas en règle avec Dieu, qu'il y a certaines choses dans ma vie qui ne sont pas en règle avec Dieu, et continuer à prêcher l'Évangile, et continuer à témoigner, et continuer à encourager les gens, et continuer à prier. Mais comment vous faites ça? Comment quelqu'un fait ça? Continuer à prier sachant qu'il y a le péché dans ma vie, que je suis OK, que je dis, OK Seigneur, je suis faible, OK, allez, right. Comme ça? On va servir le Seigneur comme ça? C'est pas l'Évangile, ça. C'est pas l'Évangile, ce truc-là. Ça ne marche pas comme ça. En d'autres mots, notre relation avec Christ ne nous permet pas de continuer dans le péché. Simple comme tout. Notre relation avec le Seigneur ne nous permet pas de continuer à le servir, à prêcher, à partager, à faire du porte-à-porte, à témoigner, sachant que nous avons fait quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu et qu'on refuse de se repentir. Écoutez-moi bien. Bien. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit d'accepter une fausse doctrine parce que vous êtes lié émotionnellement avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas accepter de compromettre la vérité parce que émotionnellement vous êtes lié avec quelqu'un. Qu'il soit un pasteur, qu'il soit un diacre, qu'il soit un ancien, qu'il soit un prophète, qu'il soit n'importe qui. Vous ne pouvez pas compromettre la saine doctrine parce que vous êtes émotionnellement lié. On a compris ou non ce que je dis là? Alors je vais accepter de compromettre ma vie d'unir mon cœur avec quelqu'un. Qui ne marche pas droit devant le Seigneur et qui refuse de plier ses genoux à terre et de se repentir et continuer à aller témoigner aux autres qu'il soit mon frère dans la chair. L'Église a besoin de devenir un peu plus sérieuse que ce que c'est maintenant. Elle a besoin de vivre une grande profondeur qu'elle ne vit maintenant. Autrement, nous n'aurons jamais l'approbation de Dieu, le sceau de Dieu sur notre vie, le cœur de l'homme. Si Jésus continuait à regarder toutes les prouesses des pharisiens, il aurait été dupe. Trompé. Mais Jésus voyait le cœur de l'homme. Il voyait, il sondait le cœur de ces pharisiens. Il savait exactement leur hypocrisie. Il savait exactement qu'ils marchaient dans le péché. Insensé qu'il leur dit, hypocrite qu'il leur dit. Il a traité de toutes sortes à ces pharisiens. Pourtant, ils étaient les représentants de Dieu à cette époque. On ne peut pas compromettre la vérité de Dieu. On a besoin d'inspecter notre cœur. Personne n'est en train de parler de perfection là. Je ne parle pas de perfection. Je parle d'une attitude. D'une attitude. Cette attitude de nonchalance qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Cette attitude d'accepter tout. On accepte tout. Pour être bien de tout le monde. On accepte tout. On passe sur tout. On tourne la page sur tout. Il n'y a pas de vraie repentance, on tourne la page quand même. Il n'y a pas de redressement de sa vie, on tourne la page quand même. C'est quoi l'Église de Jésus-Christ? C'est quoi le truc? Hein? Quand le prophète Jérémie parle des anciens sentiers, je crois que chaque chrétien qui est là, qui a vécu les réelles choses de Dieu, qui a connu l'Église de Jésus-Christ, qui marchait selon les voies du Seigneur dans la vérité, non pas dans la perfection, mais dans la vérité, et qui se tenait pour la vérité et qui ne compromettait pas la doctrine de Christ et la vérité du Seigneur, savent de quoi je parle. On ne peut pas continuer à s'amuser, à prier le Seigneur quand notre cœur n'est pas droit. Il y a un jour, il y a au moins 20 ans, j'ai fait cette déclaration. Au moins 20 ans, j'ai fait cette déclaration dans l'Église. J'ai dit aux chrétiens, arrêtez de prier si votre cœur n'est pas droit. Faites une seule prière que vous recevez la grâce de Dieu pour vous repentir. Vous savez ce que les gens disent ? J'ai déclaré qu'il faut arrêter de prier. Mais oui, exactement. Je vous dis les paroles exactes de ce que j'ai dit. Il y a des témoins là. J'ai dit en ce qui concerne la Bible, même chose. Arrêtez de lire la Bible avant de mettre votre cœur droit. Parce que vous le lisez, la lisez en vain. Pourquoi? Parce que Dieu voit le cœur de l'homme. Dieu voit le cœur de l'homme. On ne peut pas continuer à prier.
On ne veut pas continuer à prêcher, on ne veut pas continuer à faire du porte-à-porte, on ne veut pas continuer à dire qu'on est serviteur de Dieu, à dire qu'on est un témoin de Jésus-Christ, à dire ceci, à dire cela, si notre cœur n'est pas droit, si on transporte toutes sortes de choses sales à l'intérieur de notre cœur, si on a de la rancune contre quelqu'un, si on critique je ne sais trop qui, si on juge tel pasteur, si on a du non-pardon envers quelqu'un qui nous a fait du tort. Vous dites une petite chose comme ça? Jésus a été beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, pas si toi tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Non. Si lui, il a quelque chose contre toi. On voit ce que je veux dire? Pas si toi tu as quelque chose contre lui. Va faire la paix avec lui, quitte ton offrande, prends, ramasse cette affaire-là. Là. Allez, mets ça dans ta poche, rentre, va mettre de l'ordre. Va te réconcilier avec lui et puis retourne, mets ton offrande là. Il a été un petit peu plus en profondeur. Hein. Il n'a pas dit toi, il a dit ton frère. Si ton frère a péché contre toi, si ton frère a quelque chose contre toi, ne mets pas l'offrande dans ce panier. Va te réconcilier. C'est pour nous montrer la profondeur que le Seigneur Jésus lui-même a vu comment le chrétien doit le servir et comment doit être le contenu de son cœur. Ne peux pas continuer. Laisse là ton offrande, va te réconcilier et puis reviens. Même s'il est à 10 kilomètres de là, ah ben Seigneur, tu sais, j'ai pas de vélo, je vais marcher jusqu'à lui là-bas, il habite je ne sais trop où, dans quelle ville. Pas de discussion. C'est comme ça. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, si ton frère a quelque chose comme toi, parce que le fait que quelqu'un a quelque chose contre moi, il y a une possibilité que mon cœur se gâte contre lui. Même si maintenant je n'ai rien, même si maintenant tout est clair, comme quoi le Seigneur veut nous protéger, comme quoi la parole de Dieu nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que découlent les sources de la vie ». On passe l'éponge trop facilement. On tourne la page trop facilement. On accepte tout trop facilement. Tout ça pour être bien vu des hommes, pour garder la paix avec les gens, pour ne pas remuer rien. Comme si vous voyez un verre avec comme ça de boue qui a reposé au bas, là en haut, c'est correct. Mais secouez un peu le verre, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dedans. L'eau qui était soi-disant claire et propre, vous verrez la couleur. Le cœur de l'homme. Le cœur du chrétien. Laissons les païens. Laissons ceux qui ne connaissent pas Christ. On parle de chrétiens. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer sans repentance? Est-ce que je peux continuer à prêcher sans repentance? J'ai critiqué, j'ai emmené les jugements. Rien ne se passe. Tourne la page. C'était hier. Le temps fera son œuvre. Dans la chrétienté, il n'y a pas ce genre de truc où le temps fait son œuvre. Le temps ne fait jamais son œuvre dans la chrétienté. Jamais. La seule chose qui est importante, c'est la repentance. Le reste ne vaut rien. Le reste, c'est jouer. Jouer à l'église. Ouais. Le cœur du chrétien.
Ouais.
Combien de chrétiens aujourd'hui emmènent leur offrande? C'est un forcé. Ils se sentent obligés. C'est obligé. C'est obligé d'emmener cette offrande-là. Il est en mal avec sa femme, mais il l'emmène quand même. Ah oui, il l'emmène. C'est sa protection, ça. Ça, c'est sa protection. Il est correct. Il a emmené son offrande, il est correct. Mais comment le Seigneur, lui, voit ça? Le Seigneur, comment il voit ça, lui? C'est ça qui semble intéresser, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas intéressés d'être bien avec tout le monde, de plaire à tout le monde. Non! Non, il faut se tenir pour la vérité. La vérité. Et je répète, on ne peut pas juste tourner la page avec simplicité comme ça et en finir avec et tout le monde accepte, ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça doit être. Non. On ne passe pas par la fenêtre quand il y a une porte. Si on passe par la fenêtre, on est un voleur. Un mercenaire. On passe par la porte. Et souvent, ça fait mal de passer par la porte. Et souvent, il y a un prix à payer pour passer par la porte. Il faut s'humilier pour passer par la porte. Il faut être brisé pour passer par la porte. Il faut prendre sa croix pour passer par la porte. Pas juste accepter tout n'importe quoi. Ah, c'est mon frère, ça, mais tu sais, il faut l'aimer. Ah ouais. Alors, on aime n'importe comment maintenant. N'importe comment on aime. On n'aime pas selon la vérité. Et de toutes les manières, sa vie, c'est pas sa vie qui va m'empêcher, qui va m'arrêter pour ne plus aimer. C'est pas une question d'aimer, de toutes les manières. C'est pas une question d'amour, parce que l'amour, elle demeure toujours dans notre cœur, vis-à-vis de tous. Qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas, l'amour demeure dans notre cœur. Ça ne change pas. Il ne faut pas se cacher derrière le mot amour pour compromettre tout. Il ne faut pas avoir peur qu'une relation soit brisée pour la vérité. Ah oui. Jésus était en guerre avec les Juifs. En guerre. Dans l'évangile de Jean, on voit cette discussion que le Seigneur a eue avec les Juifs. Jésus a dit, vous avez comme père le diable. Il dit, notre père le diable, nous, notre père, c'est Moïse. Abraham. Vous comprenez rien ce que le Seigneur voulait leur dire. Rien. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus a dit aux Juifs. Et tu n'as même pas 50 ans. Allez lire la parole, vous allez voir. Tu n'as même pas 50 ans, tu dis qu'avant Abraham, tu étais. Oui, vous ne comprenez rien, les Juifs. Tu es en guerre contre eux, en guerre. Pourquoi? Parce que pour le Seigneur, ce n'était pas une relation. Une relation superficielle qui comptait. Il était prêt à briser tout. Je ne peux pas continuer à prêcher l'évangile. Je ne peux pas continuer à me fermer dans ma chambre pendant 2 heures à prier. Je ne peux pas me continuer à aller sur la montagne pendant 1 semaine et mon cœur n'est toujours pas droit envers ma femme. Allô? Hein? Ou avec mon mari? Ça, c'est un point qui est trop sensible pour toucher cette histoire de mari et femme. Et pourtant, dans la vie de la plupart des chrétiens, c'est la clé. C'est pour une autre fois. Anyway. Toute notre vie chrétienne dépend de l'état de notre cœur. Combien d'entre vous savent ce soir que l'esprit parle plus fort que les paroles?
D'accord?
Dans d'autres mots, si vous avez un pasteur menteur, les chrétiens vont être menteurs. Riez avec moi, au moins. C'est trop sérieux pour moi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est l'exemple. Il est supposé être le modèle et l'exemple. Ouais, c'est comme ça la vie. Hein? Dans l'esprit, les choses parlent plus fort. Plus fort. Beaucoup plus fort dans l'esprit. C'est pourquoi l'état de notre cœur est important. On ne peut pas continuer à juste jouer avec. L'Église a besoin aujourd'hui d'entendre la voix prophétique, la voix de Dieu, de la même manière que le peuple d'Israël a entendu la voix des prophètes pour arrêter les hommes dans leur voie tordue. Juste pour vous faire réaliser, donner une image catastrophique de l'Église aujourd'hui, mais je crois qu'on est un peu tous d'accord que quelque part, il y a des choses inacceptables qui sont devenues acceptables. Il y a des choses inacceptables qui sont devenues acceptables par crainte, par peur, par ignorance, par manque d'humilité, pour accepter. Et c'est la grande compétition qui existe. Ah, oui. Vous savez quoi? Il faut mieux sortir de cette grande compétition et s'assurer simplement que notre cœur est droit et continuer à servir le Seigneur. Se retirer de cette course folle en compétition avec X, Y, Z. L'Église ne prend pas suffisamment sérieusement l'état de cœur qui doit exister dans l'Église. Elle ne prend pas au sérieux et moi je crois qu'il est temps qu'elle commence à prendre au sérieux et devienne l'Église responsable qu'elle est appelée à être et à devenir. Et que ceux qui doivent donner l'exemple s'assurent qu'ils ont un cœur pur, un cœur droit devant le Seigneur. S'assurent que leurs relations sont bonnes avec tout le monde. L'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez en paix avec tout le monde. Principalement, vos frères et sœurs. C'est pas ça qu'il dit? Soyez en paix avec tous, mais spécialement nos frères et sœurs. Comment arriver là? Comment arriver dans cet état-là? Quelque part, il y a une décision à prendre dans notre cœur. Il y a une décision à prendre. Ça fait quelques années, déjà, le temps passe tellement vite. Je me vois devenir vieux. Mais ça fait quand même pas mal d'années où j'ai décidé de ne jamais plus servir le Seigneur avec un cœur qui n'est pas droit. Jamais plus.
Et je peux vous dire, ça coûte très cher. Pas en termes de roupies, mais ça coûte très très cher de vouloir servir le Seigneur dans la droiture de cœur. Ça coûte cher. Tout votre savings account dans le naturel, je parle, est vide. Hein? C'est dans le naturel, mais c'est pas comme ça. Je pouvais expliquer comment ça coûte cher, comment le prix à payer est lourd. C'est une mort brutale. Brutale. Et il y a beaucoup de gens qui ne vous comprennent plus. Comprennent plus. Ouais. C'est extraordinaire, hein? Comme quoi, vous voulez prendre une décision, une bonne décision, et on ne vous comprend plus. C'est une folie, quoi. Mais vous savez, dans le spirituel, c'est comme ça. Et, attention, ne croyez pas que ça va changer. Ça ne peut pas changer. Impossible. Impossible. Ça ne peut pas changer. Et quand le Seigneur fait une œuvre dans votre cœur, c'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre pourquoi ça ne peut pas changer. Vous commencez à comprendre pourquoi ça ne peut pas changer et ça ne changera jamais. Parce qu'il y a une lumière, une révélation, quelque part, qui commence à pénétrer votre cœur et vous comprenez qu'est-ce que c'est que la marche chrétienne dans une plus grande dimension. Oui, c'est comme ça. C'est pourquoi ce vieux sentier-là, ces anciens sentiers que le prophète Jérémie parle, c'était quelque part quand Dieu avait élevé des sacrificateurs, que Dieu avait élevé des prophètes parmi la nation d'Israël. Il parlait de la part de Dieu. Il s'exprimait de la part de Dieu. Les sacrificateurs faisaient leur travail comme il fallait, même s'ils étaient sous la loi. C'était ce que le prophète Jérémie parle des anciens sentiers, les vieux sentiers, la vieille manière de servir Dieu pour le peuple d'Israël. Et quelque part, il fallait un retour, recommencer à marcher sur ces anciens sentiers, sur ces vieux sentiers. En d'autres mots, un changement intérieur qui doit se passer pour redevenir le sacrificateur dont le Seigneur appelle avec la responsabilité et la charge qui lui est donnée. Et le prophète devient de nouveau le porte-parole de Dieu et il ne parle pas selon son désir, ce que lui, il veut voir arriver. Mais ce que Dieu proclame doit se passer et doit arriver. C'est la bonne raison pourquoi les prophètes de Dieu ont été mis à mort. Et pourtant, ils parlaient de la part de Dieu. Jésus a parlé à ses disciples, il a parlé aux pharisiens et aux juifs, il leur a dit, vous avez tué les prophètes de vos pères. Vous les avez tués. Parce qu'ils parlaient de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu. Ils avaient la parole de l'Éternel. Ils voulaient remettre de l'ordre. Ils voulaient ramener le cœur de ce peuple d'Israël vers les anciens sentiers. La manière nouvelle.
revivre ce style de vie. Quand Dieu les a retirés de l'Égypte et transportés dans le pays de Canaan et a fait un partage de la terre promise et a établi parmi eux toutes sortes de lois et leur a donné tout ce qu'il fallait. Ça a bien commencé. Ça a mal terminé. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts avant d'entrer dans la terre promise. Tous morts. Toute cette génération qui a quitté l'Égypte est morte. Par désobéissance, par rébellion. Mort. Ce n'est que la génération d'ensuite qui est entrée dans la terre promise. Nous vivons dans un temps où la voix de Dieu va se faire entendre. Beaucoup diront non, nous ne suivrons pas. Beaucoup diront non, nous n'entendrons pas, nous ne voulons pas entendre. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien. À leurs yeux. Bien dans leur orgueil. Bien dans leur hypocrisie, oui. Ne me battez pas quand je sors. C'est un fait. Parce que quand on ne veut pas s'exposer, quand on ne veut pas s'exposer à la vraie vie que nous menons et passer par la vraie porte et se repentir et mettre son cœur et sa vie en ordre, on ne veut pas entendre le son de la trompette. Ce n'est pas intéressé. On veut faire continuer notre route. Continuer à servir le Seigneur. Entre guillemets. Jusqu'où? Jusqu'à où? On va persister. Moi, je rends grâce à Dieu que j'ai capitulé. Ah, il y a bien un jour que j'ai capitulé, j'ai dit assez me cacher. On fait des choses étranges dans l'Église et personne ne prend au sérieux. Personne ne prend au sérieux. Il y a des choses étranges qui se passent à l'Église, personne ne prend au sérieux. Personne. Les choses contraires à la parole de Dieu, personne ne prend au sérieux. Personne. Personne ne se lève et dit « Ce n'est pas de Dieu cette chose-là. Cette action n'est pas de Dieu. » Et toute l'Église devient une dans son péché, dans son hypocrisie. Mais non. Si Dieu nous parle, il faut sonner la trompette. Et que ceux qui entendent et qui veulent entendre, entendent. Et ceux qui veulent continuer à jouer un jeu, il y en aura beaucoup. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. Où est la solution? Vous savez, mes amis, il y a un message qui redresse le cœur de l'homme. Ouais. Et je vous dis une chose, ce n'est pas le message de la prospérité. Loin de là. Il y a un message qui dresse le cœur de l'homme. Il y a un message qui l'emmène à se repentir. Un seul. C'est le message de la croix de Jésus-Christ. Un retour aux bases. Un retour au béaba de la chrétienté. Un retour au message des apôtres et des prophètes de la Nouvelle Alliance. Un retour au message de la première Église. Un retour à la simplicité de l'Évangile, mais un Évangile puissant qui emmène le cœur des chrétiens à se plier et à marcher dans la droiture de cœur, à s'humilier, à se repentir réellement, à goûter au pardon de Jésus, à goûter au sang de Jésus-Christ qui nous lave et nous purifie de tout péché, à goûter à la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Le cœur du chrétien. Comment ne pas s'arrêter un moment ? Comme David, qui au moment donné de sa vie a réalisé que ce serait fini pour lui, fini. C'est là où nous avons besoin d'arriver, comme David, quelque part. Si je n'avais pas goûté à cette vraie repentance, ce serait fini pour moi. Fini. Et il faut arriver là. Il faut arriver dans cette attitude de cœur. Tout le monde inclus. Tout le monde inclus. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, tout le bazar, bishop, tout ce cas. Tout le monde a besoin d'avoir cette attitude que David avait. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas au profond, dans le profond de mon cœur pour m'emmener à réaliser mon état, tout sera fini pour moi. Fini. En d'autre mot, la chrétienté deviendra sèche. Sec. Tout deviendra tradition, technique, principe, religion. Oui. Voilà comme ça finit. C'est comme ça que ça finit. Et la religion, quand ça s'est accaparé de nous, quand la tradition s'est accaparée de nous, c'est une des choses les plus difficiles à s'en débarrasser. Parce qu'on aime le confort de la tradition et on aime le confort de notre religion. Que la chrétienté ne devienne jamais une religion, mais une relation pure et droite avec Jésus-Christ. Amen. Combien d'entre vous vont retourner demain? Ça fait peur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour entendre la voix de l'Esprit. Voilà une seule chose qu'on est là. Parce que le Seigneur veut faire resplendir son Église sur la terre. Il veut faire briller sa lumière au sein de son Église. Il veut voir les hommes et les femmes se lever dans l'Esprit et être rassurés que Dieu exauce nos prières quand on prie. Et qu'on ne prie pas en vain. Et qu'on ne prie pas dans le vide. Et qu'on ne prêche pas en vain. Et qu'on ne prêche pas dans le vide. Mais que tout vient d'un cœur pur. Tout vient d'un cœur droit envers le Seigneur. Amen. On est d'accord avec ça? Allez, on se met debout, on va prier le Seigneur.
Merci d'avoir écouté ce message. Nous espérons que vous avez été encouragé. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez écrire à l'adresse suivante. CTMI, boîte postale 259, Curepipe, Île-Maurice. Notre adresse email, info@reseauctmi.org ou encore sur notre site internet reseauctmi.org. Que la grâce de Dieu continue à vous fortifier et que Dieu vous bénisse.